tester notre système ce matin. Je pense que ça va marcher là, parce que le micro est bien placé. Hier, c'était pas terrible le son. Et donc, en fait, on a perdu plus ou moins la première moitié, hein, c'est certain. En fait, non, il n'y a rien de perdu. La vérité, c'est que c'est mieux que vous ne se souvenez pas de ce que j'ai dit. Parce que si je dis quelque chose que vous gardez et vous accrochez dessus, ça limite votre possibilité de découvrir quelque chose pour vous-même. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que vous découvriez. Vous décrivez les choses pour vous-même. En même temps, si je ne dis rien, comme j'ai dit hier, je vais recevoir un coup de bâton de mon maître. Parce que si je dis rien, ça risque aussi qu'on reste accroché à nos façons habituelles de faire et penser. Donc c'est très utile, entre guillemets, que je dis quelque chose, mais il ne faut pas que je dis trop ou que je dis les choses auxquelles vous devez être collé. Donc le fait que ça n'a pas bien enregistré, ça n'a vraiment pas d'importance. Effectivement, on fait les enregistrements pour ceux qui ne sont pas là. Donc dans ce sens-là, oui, ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave non plus parce que je dis toujours la même chose, donc il suffit d'écouter une fois et on a tout entendu. Ce qui n'est pas vrai non plus, hein, parce qu'on dit toujours des choses, c'est toujours neuf. A priori, il vaut mieux que ce soit toujours nouveau ce qui est dit. Alors, pendant que j'en étais assis là, pendant cette demi-heure, Fabio, le paysage de ces arbres, qui nous enseigne beaucoup plus que les paroles. Parce qu'on est tous les arbres. Et les arbres, en fait, il y a tout un écosystème souterrain, toute une vie de soutien et d'interdépendance entre les arbres. Donc nous n'avons aucune idée, mais les scientifiques nous expliquent ça. Et s'il y a un arbre qui a besoin d'eau, les autres vont en prendre moins. Ce genre de choses, ils s'entraident souterrains, bien qu'ils ont l'air d'être séparés. Et ils sont séparés, selon notre esprit dualiste, hein, mais... Et donc ce qu'on fait ici, c'est un peu ça, on se soutient avec cette pratique. Mes mots sont censés vous soutenir, vous me soutenez en écoutant, en pratiquant, en donnant votre plein cœur à ce que vous faites, que ce soit les rituels, que ce soit votre assise, que ce soit travailler ensemble, manger ensemble, on se soutient. Alors si on peut voir les mots que je prononce dans cet esprit-là, là c'est plutôt favorable. Vous écoutez ça et c'est comme si ça va soutenir votre pratique pour que vous puissiez découvrir quelque chose pour vous-même. J'ai aussi pensé hier que j'ai toujours l'impression, après mes talks comme ça, que ah non, c'est pas vraiment ça qu'il fallait dire. C'est ah non, c'est pas vraiment ça. Et ce qui est bien, parce que ça me force à continuer à chercher, à creuser, à regarder en moi-même ce qui se passe, être attentif à la situation. Et je me suis dit, il y a un certain nombre de personnes ici qui visiblement connaissent le zen, pratiquent zen parce qu'ils ont des rakusu. Il y en a certains que je connais parce que j'ai donné ces rakusu, mais il y en a d'autres que je sais pas d'où ça vient, c'est Rakosu. Ça, je sais à peu près. Ces deux-là, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est important de... J'aurais dû commencer avec, ok, mais c'est quoi le zen? D'où ça vient? Ça parle de quoi? Et même ceux qui... Je mets moi dans cette catégorie ici aussi. Même ceux qui pensent qu'ils savent quelque chose, en fait, on ne sait rien. Donc c'est toujours bien de revenir là-dessus, de revenir, de regarder de nouveau de quoi il s'agit cette pratique. Hier, j'avais parlé du fait que cette ligne, c'était hier ou avant-hier, que cette ligne entre moi et cette statue, ça représente un lignage. Ce qui est vrai, bien que le zen, c'est vraiment, on est vraiment les, comment on dirait en français, on est un peu en dehors du bouddhisme. C'est considéré comme une école du bouddhisme, effectivement, et on s'inspire du bouddhisme et on respecte ce lignage. Mais il y a des pratiquants zen, il y a même des maîtres zen qui ne sont pas bouddhistes. Oui, qui sont des prêtres catholiques ou des rabbins ou des imams soufis même. Il y en a. Ce n'est pas. Non. C'est une école bouddhiste, j'avoue. En même temps, c'est pas vraiment une religion ça rentre pas vraiment dans les cases de ce qui est bouddhiste. Effectivement, on appartient à le parti bouddhiste Mahayana, comme le bouddhisme tibétain qui est représenté dans ce centre. On appartient à cette branche-là. Et la spécificité de ça, c'est le bodhisattva, l'archétype de bodhisattva qui est habité par la sagesse et la compassion. Et son activité est d'agir avec sagesse pour le bien-être des autres. C'est plus ou moins ça, le bodhisattva. Et nous, on considère que c'est notre archétype aussi, bien que dans le bouddhisme tibétain, c'est pareil. Par contre, ce qui s'est passé avec le zen, je regarde mes notes pour que je n'oublie pas quelque chose. Le bouddhisme a eu à l'origine, je ne vais pas donner un cours sur l'origine du bouddhisme, mais ça vient de l'Inde. Le Bouddha habitait dans ce qui est aujourd'hui l'Inde et était évidemment quelqu'un de son époque, de son lieu, de son société, sa culture, etc. Comme le zen, mais comme chaque fois que le bouddhisme est parti ailleurs, ça prend des formes locales, entre guillemets. Le Bouddha s'est cassé avec le système des castes, qui est toujours existant en Inde. Et il s'est cassé beaucoup avec tout ce qui était... les pratiques spirituelles de l'époque étaient très dualistes entre soit c'est rien, soit c'est tout. Rien étant très nihiliste, ascétique. Le tout était plutôt métaphysique, philosophique. Lui, il cassait avec ça. Il faisait que tout le monde était pareil. On n'avait pas de caste. Le sangha, tous étaient égaux. Ils étaient invités à enlever leurs robes et leurs habits très chics et mendier pour les bouts de tissu, pour fabriquer, bon, nous, ça représente ça aujourd'hui, pour fabriquer des habits. C'était quand même imprégné par la philosophie et la métaphysique indienne. Quand c'était venu c'était 9 siècles plus tard, il y a quelqu'un qui est venu de l'Inde, que nous on vénère comme étant le fondateur du Zen, en fait, Bodhidharma, qui est venu de l'Inde. C'était un prince aussi, mais il avait une autre idée du bouddhisme. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le bouddhisme un peu en Chine, mais c'était lié aux sutras traditionnels, lié beaucoup à la métaphysique, les déités philosophiques, et c'était surtout les formes, les statues, les jolis tankas. C'était pas des tankas, parce que ça, c'est typiquement tibétain. Les calligraphies, les choses très jolies, et les sutras. Et donc, on mémorisait les sutras, les étudiait, etc. Alors, Bodhidharma arrive dans tout ça en Chine, et il dit, non, c'est pas ça. C'est un enseignement qui est en dehors des sutras, qui frappe au cœur de l'être, au cœur de chacun, et qui n'est pas dépendant de toutes ces paroles, toutes ces études de sutras. Il allait même plus loin, quand il était questionné par l'empereur, parce qu'il y a une histoire célèbre où l'empereur entend parler de lui, entend parler de ce type qui est extraordinaire, qui a un autre message sur le bouddhisme, et donc il le fait venir. Et cet empereur avait fait beaucoup, beaucoup pour soutenir le bouddhisme. Il avait financé la création des lieux, les temples, l'équivalent des temples, des statues. Il avait fait donner le soutien pour les études des sutras, etc. Donc il avait donné beaucoup d'argent et de son énergie à ça. Donc Bodhidharma arrive et il demande à Bodhidharma, quels sont les mérites de tout ce que j'ai fait, de toute cette énergie, toutes ces ressources que j'ai investies dans mon soutien du bouddhisme. Quels sont les mérites? Parce qu'il attend à savoir si, bon, ça va me faire du bien, ou je vais être connu. Et Bodhidharma, et c'est devenu très célèbre, Bodhidharma lui dit, pas de mérite. Pas de mérite pour ce que vous avez fait. Alors il est un peu outré, l'empereur. Et il dit, bah, alors, quel est l'enseignement principal du bouddhisme? S'il n'y a pas de mérite dans tout ça que j'ai fait, quel est l'enseignement? Quel est le principe de base de ça? Encore une fois, c'est très célèbre, c'est sa réponse. Dans le Zen, c'est très célèbre. Bodhidharma lui dit... en anglais, il dit « vast emptiness, nothing holy ». Donc, le vide vaste, la vacuité vaste, rien de sacré. Alors, il dit ça à quelqu'un qui a dévoué toute son énergie et les richesses de son royaume à créer les choses sacrées, à soutenir ce qui était considéré sacré et de le protéger. Et là, il prend en plein figure que l'enseignement principal du bouddhisme, c'est qu'il n'y a rien de sacré. Et que c'est juste vide et vaste. Qu'est-ce que c'est le vide? Qu'est-ce que ça veut dire, rien n'est sacré? Donc, de nouveau, il est très choqué, l'empereur, et donc il dit, mais qui es-tu qui est devant moi pour me raconter ça? Et Bodhidharma, de nouveau, réponse célèbre dans le Zen, répond, je ne sais pas. Alors, ils défendent même pas, je suis le grand Bodhidharma, je suis un prince, je connais d'autres choses, j'ai une expérience d'autres choses, etc. Il dit, je ne sais pas. Alors là, l'empereur, bouche bée, Bodhidharma s'en va. Il y a une suite de l'histoire, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est considéré étant comme une histoire fondamentale dans le Zen, une espèce de mythe de création dans notre histoire zen. car ça a mis les bases de tout le reste qu'on a répété depuis, qu'on fait depuis. C'est aussi ce rêve que le Bodhidharma est parti de là. Il s'est retiré dans une grotte pendant 9 ans et il s'est assis, selon la légende, face au mur de grotte pendant 9 ans. Ça a été interprété littéralement. Et donc, il y a certaines écoles zen où on se soit littéralement face au mur. Il y a des gens qui disent que ce n'était pas vraiment face au mur qu'il était assis, mais face au vide, qui s'est mis peut-être même à la porte de grotte, dans la montagne, face au ciel, pendant 9 ans. Il y a différentes interprétations, mais c'est intéressant, cette histoire, parce que ça aussi, ça va informer ce qu'on fait à la suite. Arrivé en Chine, cet enseignement, et en Chine, depuis des siècles déjà, il y avait deux choses qui se passaient. C'était Confucius, comment on dit en français ? Confucius. Et donc le confucianisme.
Confucianisme.
Vous comprenez ce que je veux dire ? Et les taoïstes. Et le taoïsme, qui étaient les deux tendances spirituelles et qui informaient aussi les gouvernements et toute la société chinoise. Et ça continue aujourd'hui. Hein. On voit ces influences toujours dans la société chinoise. Pour résumer plus ou moins, Confucius, il était considéré comme... on disait qu'on on suivait Confucius au bureau ou dans la vie active et le taoïsme à la retraite. Les Confucius étaient très axés sur une réalisation de l'humain, de la vie humaine, étape par étape, dans différents domaines. Les taoïstes voyaient ça comme trop rigide, trop figé. Et le taoïsme était inspiré par les arbres, par la nature et l'expérience directe de ce qui est, surtout la nature. Et donc c'était soudain, direct, tandis que Confucius était petit à petit, étape par étape, et pas forcément lié à la nature. Les deux coexistaient en Chine et l'art était souvent, la poésie, la peinture, tout l'art et l'esthétique chinois venaient du taoïsme et tout ce qui était gouvernement, société, organisation, bureaucratique, etc., économique, venait de Confucius. Alors le zen arrive dans tout ça. Et évidemment, ça a pris les deux aspects, ça a pris des deux. Comme chaque fois, comme j'ai dit, chaque fois que c'était arrivé dans un autre pays, une autre culture, le bouddhisme, ça s'est imprégné par le contexte, les situations, les gens, etc. Et on voit ça, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, c'est complètement autre, c'est très influencé par les situations, la vie des gens, le folklore, la façon de penser en Tibet. Pareil au Vietnam, pareil en Sri Lanka, partout, et maintenant en Occident. C'est complètement imprégné par la situation locale. Alors en Chine, c'est influencé par ces deux tendances. Et ça a donné... deux façons, je dirais, ce qu'on appelle graduel et soudain de l'éveil, qui est un débat qui continue de faire rage dans les écoles. Bien qu'ils ne sont pas vraiment séparés, mais on ne va pas tellement rentrer là-dedans parce que c'est un peu... on s'en fout. Donc, ce qui était la particularité de Zen, je regarde juste mes notes pour être sûr que je n'ai pas oublié. Ce que Bodhidharma a fait, c'était de couper toutes les dualités. Et c'est ça ce que le Zen fait, comme j'ai dit hier. C'était de couper toutes les dualités, de couper avec la métaphysique et la philosophie et les archétypes et les déités et tout ça, parce que c'était vraiment juste qu'est-ce qui est ici maintenant. Que tout est ici maintenant, il n'y a rien à l'extérieur. Donc il disait, c'est pas dans les textes. Il n'y a rien, comme j'ai dit hier, si on cherche ailleurs, on va passer, on va s'éloigner de ce. Il s'agit de là. Il s'agit d'ici maintenant, soi-même, le cœur de soi-même. Et les dualités, comme je parlais hier, l'esprit discursif, disons, comme on utilise d'habitude, il se réalise pleinement dans l'analyse, la distinction. La séparation, mettant les choses dans les catégories. Il se satisfait entièrement avec ça. Et il se trouve brillant avec ça, parce qu'il est brillant avec ça, tout ça. Mais le problème, c'est que s'il interprète cet éparpillement de la réalité comme étant la seule et unique vérité, il manque un aspect fondamental de la réalité. C'est l'unité, comme j'ai dit hier. Et ce que la méditation, particulièrement dans le Zen, j'imagine dans n'importe quelle méditation, mais dans le Zen on met l'emphase là-dessus, c'est de nous ramener, on dit en anglais, « bring us back to our senses ». Comment vous pouvez traduire ça ? Nous ramener à nous-mêmes. Oui. Nous ramener à nous-mêmes, c'est une expression en anglais, « bring us back to our senses », c'est que c'est un peu comme si on s'est égaré et quelque chose nous ramène à « ah bah oui, bien sûr, bien sûr ». Et la méditation nous ramène à ça. À cette unité, à nous-mêmes, à le monde avant que ça ait été coupé par l'esprit discursif. Avant, j'ai parlé du soleil hier, mais ça peut être les arbres. C'est avant de dire ça c'est une chaîne, ça c'est un sapin, ça c'est un être, ça c'est, je ne sais pas, que sais-je, mais... et tel ou tel âge, et ça doit être cette saison parce qu'il n'y a pas de feuilles, il y a des bourgeons, ça doit être telle ou telle saison, c'est grand, petit, quelle couleur, quel feuillage, quel fruit, etc. Avant tout ça, avant. Parfois on dit, dans le Zen, quel est ton visage avant que tes parents sont nés? C'est, on dit avant que tes parents sont nés, parce que c'est un concept. Avant les concepts, qui es-tu? Et la méditation zen nous amène là. Nous amène avant cette médiation qui est la pensée discursive et même le langage. C'est pour ça que j'ai dit, si vous ne vous souvenez pas ce que j'ai dit, tant mieux. Parce que les mots, ça sépare. Ça nous sépare. Parfois, je donne une méditation aux gens où je dis, pendant que vous êtes là, sur votre coussin, avant de commencer, vous dites, ok, je vais... C'est une pratique de traduction. Et donc, je dis, avant de commencer, vous choisissez une langue qui n'est pas la vôtre et que vous ne parlez pas. Donc moi, parfois, je choisis le turc. parce que je ne parle pas turc. Je pouvais aussi choisir peut-être suédois ou une langue que je ne parle pas. Et je me mets là. Et quand quelque chose vient à ma conscience, que ce soit le plancher, que ce soit mon genou qui me fait mal, que ce soit mon nez que j'aime gratter, que ce soit gratter, quoi qu'il en soit, on dit, ok, comment on dit ça en turc? Comment je dis ça en suédois? Les langues que je ne parle pas, évidemment. Pour faire ça, tout le monde ici parle plus ou moins plusieurs langues, ou au moins deux, vous avez des connaissances, etc. Donc vous savez que quand on traduit, on est obligé de virer le mot qu'on connaît. Donc je dois virer lunette. Si je suis figée sur lunette, je ne vais pas pouvoir dire un autre mot pour ça. Donc je dois complètement enlever lunette pour dire en anglais glasses. Si je suis accrochée à lunettes, je ne peux pas dire glasses. Et si je suis attachée à glasses, je ne peux pas dire lunettes. Et donc, dans cette pratique que je donne, c'est que je vire lunettes, je vire glasses, et j'essaie de mettre le mot turc là-dessus. Mais comme je ne parle pas turc, je ne peux pas mettre un mot là-dessus. Et je suis laissée avec, quoi? C'est quoi alors? Dans l'idéal, le but de cette méditation, c'est que à un moment, on peut avoir une expérience directe, sans la médiation d'un concept ou d'un mot, sur ça, sur ce qui est. Et tout le... Parce que le mot, le langage, est un peu la servante de l'esprit discursif. Le langage s'occupe de figer le concept que l'esprit crée, et donc le langage va dire hop, lunettes, hop, cahier, hop, rouge, hop, oh, vert, etc. Et va donc le séparer de tout le reste. Parfois, ce qui peut se passer, c'est quand on fait cette pratique de traduction, c'est que les choses ne sont plus distinctes les unes des autres. Ça peut devenir un peu waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Un peu comme on regarde les arbres et on ne voit pas vraiment la séparation d'un à l'autre. Et ça aussi, c'est une expérience avant de mettre les concepts dedans. Alors, le zen s'agit de ça. Il s'agit de revenir à avant. Oui, disons que quand on... Tout le chemin de zen, c'est, comme j'ai dit, c'est de éveiller à se réveiller à l'unité, à cette non-séparation entre moi et toi, entre petit et grand, entre bien et mal, de revenir à ça. Et c'est pour ça que je dis... cette méditation qu'on fait, ça vise ça. À l'intérieur des écoles de zen, il y a différentes techniques, évidemment. comme il y a dans toutes les écoles bouddhistes, ou n'importe quoi, toute discipline a ses techniques. Et dans le zen, il y a principalement il y a la respiration qui est traditionnelle, mais ça aussi c'est dans d'autres pratiques de méditation, la respiration. Et dans notre lignage, notre école, on a ce qu'on appelle les koans. J'ai parlé de ça hier, les koans. On utilise ça, on fait une pratique, une étude des koans. Et koan, c'est un mot japonais qui veut dire cas public. Ça vient du langage juridique, où c'est un peu comme dans la loi en Occident. Il y a des cas, il y a des... On dit ça les cas en français, en anglais on dit des case, lawsuit, law cases. En français on dit des cas, non, on dit...
Des affaires.
Je ne me souviens plus. Mais c'est pareil, il y a, il y a une décision juridique qui fait exemple. Qui
jurisprudence.
Fait, jurisprudence, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un mot qui est adopté de ça, mais en fait... C'est pas ça son fonction. La fonction, c'est que c'est un cas qui a été, qu'on a vu comme un exemple, disons, dans le zen.
Ça serait ce cas d'école.
Oui, c'est un peu comme un cas d'école, ouais. Un peu comme ça. Qu'on utilise comme un exemple. Et encore, dans le zen, c'est qu'on va... Ce qui a été réalisé dans ce cas, ou que quelqu'un a réalisé à travers ce cas, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être un poème, ça peut être une histoire, un échange, etc. On cherche à réaliser ça soi-même. Et ça... dans ça, les concepts, l'esprit discursif, le langage même du Coran, on cherche à bypass, comment on dit bypass ?
Contourner,
oui, ou passer outre, comme ça, pour répondre spontanément à la situation, à la phrase, à ce qui est présenté. Ce qui est, bon, il faudrait que je donne des exemples. Bon, j'ai donné l'exemple hier de comment tu prends un pas quand tu es en haut d'un pilier de 100 mètres. Ça c'est un koan. Que le pratiquant est censé répondre à ça. Ou un autre, effectivement, c'est quel est votre visage avant que vos parents soient nés. Comment aller tout droit sur un chemin qui a 99 tournants. Des choses qui, apparemment, sont impossibles, incompréhensibles, n'ont pas de sens, on s'en fout de ce que c'était mon visage avant que mes parents soient nés. Donc on cherche à répondre ce qui est à le cœur du sujet, du cœur de ce qui est exprimé dans cette histoire. Et pour ça, c'est petit à petit à petit, il y a des centaines, des centaines, des centaines de koans qu'on utilise, qu'on étudie. Et ça, en direct... en lien direct avec un maître qui a fait tout ça soi-même. Moi, j'ai fait tout ça, et donc je travaille avec mes étudiants là-dessus. Et mais c'est des années. C'est vraiment... dans ça, ça ressemble à ce qu'on disait graduel, petit à petit. Sauf que chaque courant, chaque expérience est un mini éveil. Une mini expérience, un glimpse. Non, on ne dit pas glimpse en français. Non. Un aperçu de, ou un insight, on dit insight en français, non plus, comment on dit un aperçu du réalité absolue, disons, de cette unité de toutes choses, de cette véritable nature des choses. Et au fur et à mesure, on s'éveille à, parfois on peut dire, la structure du monde, une autre structure, la structure du dharma, parce que dharma c'est un concept aussi. Et on s'éveille à ça, on incarne ça soi-même. Le soir, quand on chante nos vœux, c'est... on est presque à temps,
hein? Non, c'est pour moi.
Ah, ok. Les vœux qu'on chante le soir, le dernier qu'on dit, c'est que je fais le vœu d'incarner ce chemin du Bouddha, cette voie du Bouddha. C'est pas quelque chose de grandiose, hein? C'est vraiment incarner qui tu es véritablement. C'est ça dont il s'agit. C'est pas parce que c'est ça le chemin du Bouddha. On dit que qu'est-ce que c'est le vœu en français?
Insurpassable.
Insurpassable est la voie du Bouddha. C'est pas que c'est meilleur que les autres, que c'est tellement loin qu'on peut pas aller plus loin. C'est que il n'y a rien d'autre. Ça, on peut pas le surpasser parce que tout est ça. Donc il y a rien à l'extérieur de ce chemin. Et je fais le vœu d'incarner ça, cette wholeness, cette entière. Ma vie est ça, la vie est ça. Et cette pratique des Korans, ça, petit à petit, ça éveille cette réalisation en nous. Et ça nous forme notre façon d'être, pas, je dirais, pas déforme notre façon d'être, ça, où ça nous ramène à qui on est véritablement, à cette réalisation de qui on est véritablement. Et c'est ça le chemin du zen. C'est ça. Le chemin du zen, tant que moi, j'ai... quelle heure est-il, ça me... Et donc, il faut que j'arrête à quelle heure?
13h. Il faut 18 minutes. 13.
Ok. Parce que je vais laisser un peu de temps pour les questions et les commentaires. Donc, je finis juste cette phrase. Qu'est-ce que je disais? Que c'est. Je me souviens plus ce que je disais, c'est pas important.
C'est la voie du zen.
Ah oui, c'est ça. C'est la voie du zen telle que moi. Je l'expérimente tel que mon maître expérimente, que son maître et son maître. Il y a d'autres gens qui pratiquent le zen, qui vont exprimer ça autrement, mais on va toujours revenir plus ou moins à la même chose, parce qu'on appartient aux mêmes traditions, plus ou moins. Et quand on écoute les enseignements des du Thich Nhat Hanh ou du bouddhisme tibétain, différents maîtres tibétains, que ce soit Shugyam Trungpa, que ce soit Kelo Rinpoche, que ce soit comment il s'appelle, Mingyur, on revient toujours au même cœur, plus ou moins. Même ce qui n'est pas Mahayana, qui est Theravada, on revient plus ou moins au même, bien que dans le Theravada, on n'a pas cette attention vers le Bodhisattva et la compassion et tout ça. Mais on revient à ici, maintenant, plus ou moins. Et dans le Zen, on ne cherche pas à trouver ce qui nous sépare, mais plutôt ce qui nous réunit. Et donc, c'est vraiment une pratique d'inclusion. Comme j'ai dit, cette voie du Bouddha, tant que nous, on le considère, il n'y a rien à l'extérieur de ça. Donc, ça inclut tout. Donc, on essaie de plutôt que de supprimer et d'enlever et d'exclure, on essaie d'ouvrir, ouvrir, tout inclure. C'est un peu ce que Trungpa disait, le panoramic awareness. C'est panoramique. On s'ouvre notre cœur au tout. Ce qui est, tout est ici maintenant. Donc, si on s'ouvre notre cœur à juste là, ce qui est là maintenant, et si on fait ça à chaque instant, bah, tout est fait. Mais comme je disais hier, c'est un vaste programme. C'est tout petit, mais c'est énorme. Alors, j'aimerais arrêter pour que vous puissiez poser des questions ou partager, dire des choses.
J'ai une question. Ça a piqué ma curiosité, l'étude des koans et cette pratique. Est-ce que c'est seulement pour les étudiants avancés du zen ou qu'on fait pour n'importe quel pratiquant?
C'est pas une question d'avancer ou pas avancer. Je sais même pas si c'est une histoire de zen ou pas de zen. Par contre, il est essentiel, on peut pas le faire toute seule. Donc c'est essentiel de faire ça avec un maître qui soi-même a fait ça.
Donc on pourrait le faire avec vous?
Oui.
On pourrait le faire pendant la retraite?
On peut essayer. On peut en discuter, disons.
Oui.
C'est ça. Parce que c'est encore une fois, peut-être parce que je suis ici, j'ai des trucs de Trungpa dans la tête, mais comme Shogyen Trungpa disait, la transmission ou la rencontre avec le maître et le disciple, c'est deux portes qui s'ouvrent sur le vide. Et c'est essentiel pour ce travail de koan qu'il y a ça.
Mais est-ce que c'est un à un? Ça se fait en groupe?
Non, c'est un à un.
Ah, ok.
Ouais. C'est un à un. Parce que chacun a son expérience directe.
D'accord, je comprends.
C'est
pas la même chose. Je croyais que c'était une pratique de groupe.
Il y avait des tentatives de ça. C'est autre chose si on fait en groupe. Mm-hmm. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai introduit un koan, et puis tout le monde en parle de ça, etc. Mais ce n'est pas la même chose que quand on travaille soi-même et on a une expérience profonde et directe pour soi-même.
Parce que c'est une expérience, on n'est pas en train d'étudier tout ce qu'on fait, voilà. On reste dans notre expérience. C'est ça. La pratique. Okay.
Il y a des écoles zen qui étudient les koans. Qui vont avoir des cours, mais ce n'est pas les écoles Rinzai. Il y a deux écoles principales, il y a l'école Soto et il y a l'école Rinzai. Et comme j'ai dit, mon témoignage a les deux. Et dans l'école Soto, ce n'est pas qu'on ne va pas les pratiquer, mais on ne va pas les pratiquer de la même façon que dans l'école Rinzai.
Non, je pensais que c'était une pratique de groupe, hein, donc je ne m'aventurerais pas effectivement à pratiquer.
Mais c'est possible. Hein. Et en fait, donc je parle des koans, mais notre vie, c'est notre koan principal. C'est l'univers est notre koan, en fait, parce qu'on ne le comprend pas. C'est incompréhensible. Comme j'ai dit l'histoire des migrants hier, quand j'ai donné ça, mais c'est incompréhensible que quelqu'un est obligé de quitter chez lui, il vienne chez moi et je refuse qu'il rentre. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc c'est tout est incohérent. Mais nous, on a systématisé ça avec des histoires qui aidaient vraiment à réaliser quelque chose. Et on a développé en pratique.
Si Frank Roshi a fait ça des fois à la place du Dharma Talk, d'ailleurs les gens, pendant que c'était échange, je me disais, est-ce qu'il sait que tout le monde a déjà fait le Koan? mais les gens le jouent même. Il y en a un qui a été joué. Et une fois au centre aussi, on s'est mis en groupe de ceux qui avaient déjà fait le Coran et ceux qui n'avaient pas. Et puis après, il y a une discussion.
Oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'est possible, on peut utiliser ça en groupe. C'est vrai que Franck, il aime bien ça. Franck, c'est mon frère dans le Dharma, notre successeur du même maître. Et oui, disons que c'est pas obligé que tout le monde a déjà travaillé sur les Corans, mais on demande aux gens qui ont déjà travaillé sur ce Coran de s'abstenir, de dire... certaines choses, ou parce que c'est priver des gens de leur propre expérience si on ajoute les choses. C'est criminel presque. Si on donne la réponse à quelqu'un, c'est criminel. Et d'ailleurs, j'ai connu quelqu'un en Pologne qui était traductrice toujours pour les maîtres qui venaient, qui ne parlaient pas polonais. Et donc, elle assistait aux entretiens avec des étudiants et elle traduisait. Et pour elle, bah, la pratique des Corans était foutue. C'est tragique. Parce que elle peut toujours avoir son propre expérience, mais elle va être très influencée par l'expérience des autres. Et c'est pas qu'elle a eu les expériences, mais comme elle a entendu ça, elle était très influencée. Et c'était difficile. C'est comme si elle était accrochée à l'expérience de quelqu'un d'autre des lunettes. Elle n'arrivait pas à se vider de ce que c'est les lunettes. Et donc, il y a des livres qui... en ligne, qui parlent des Corans, qui donnent des réponses. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des réponses. Parce que ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que ta réponse va être. Je sais que... Et même quand je retravaille avec des gens... Je découvre les choses dans ces courants que je n'avais pas vues, mais que l'autre a réalisées. Donc, les livres, c'est pas ça. Encore une fois, c'est en dehors des sutras. Bodhidharma a mis ça, il a vu ça clairement. Tu voulais dire quelque chose?
Et du coup, c'est pas vrai comme, comme de m'asseoir sur un coussin et de me mettre en lotus. C'est l'expérience qui compte. C'est pas vrai, comme c'est pas vrai de je m'assois sur un coussin, je croise les jambes et je respire. C'est l'expérience qui compte.
Exactement. On peut regarder quelqu'un d'autre le faire.
Oui. Et ça, c'est pas vrai non plus.
Ouais. C'est vrai.
Et du coup, c'était une de mes questions. C'est la pratique, c'est la méditation. Le dharma, donc l'enseignement du Bouddha, et dans le zen, je comprends que c'est essentiellement par les koans.
Non.
Il y a des ouvrages aussi, pas de référence, je ne vais pas dire ça, mais des textes.
Non. C'est l'expérience de chacun qui prime. Et d'ailleurs, le Bouddha disait ça. Il dit, ne croyez pas ce que je vous dis. Regardez ça pour vous-même. Cherchez vous-même. Et donc, les Corans, je dis ça, c'est dans notre tradition, on se sert de ça, mais tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai des étudiants qui ne font pas les Corans, qui pratiquent avec moi. Et je suis aussi habilitée à travailler avec eux sans utiliser les Corans. Que travailler avec ceux qui veulent pratiquer les Corans. Les livres, bon, ça peut être... je recommande à tous les gens qui pratiquent avec moi de ne pas lire, en fait. Sauf après un certain moment, quand on peut lire autrement que de s'imprimer des concepts. Si on peut... Moi-même, je lis des textes bouddhistes, etc., avec l'idée... qu'est-ce qu'il y a là-dedans que je peux transmettre aux autres, que je peux partager avec les autres. Donc, ce n'est pas pour moi pour accumuler des connaissances ou des concepts, c'est vraiment pour partager.
Et si je lis, par exemple, ça m'est arrivé de lire des livres de d'Eshimaru, et sans me dire je vais acquérir, je vais acquérir de la connaissance. Je vais simplement le lire. Je vais simplement le lire. Et certains livres, je les relis et je les lis à chaque fois différemment. Parce que il y a, voilà. Et j'ai l'impression que cette lecture, c'est aussi une méditation en fait. Je sais pas comment.
Alors. Et donc vous lisez ça pas la même façon que vous lisez le journal ou le roman.
Oui.
Voilà, exactement. Bah, c'est ça. Ça c'est pas. Ça, vous avez plus de chance à ne pas être attaché au concept alors. Si c'est comme ça.
Alors, mes premières lectures, c'était pas ça. Mais du coup, je suis de plus en plus dans cette, je pense, dans cette autre forme de lecture aujourd'hui, et j'en ai conscience, alors que je ne l'avais pas au départ. Au départ, c'était vraiment pour lire du Eshimaru. Voilà, j'ai lu. Et là, c'est autre chose. Mais de le relire, ça, ben, je pense que ça correspond à cette ouverture-là.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Oui. Et probablement intuitivement, tu as senti ça.
Oui.
Fais confiance à ça. Et est-ce qu'on peut aborder toute la réalité comme ça? Ça, c'est intéressant.
En fait, ça me fait penser à ce qu'on disait à l'instant sur. Enfin, à ce qu'on a partagé avec Hugues tout à l'heure. En fait, il m'a demandé si je pouvais lui remontrer, enfin, si on pouvait refaire ensemble le nœud, enfin, la fleur, le nœud sur le l'Orioki, enfin l'ensemble d'Orioki. Et ça m'a rappelé ma propre expérience, effectivement, mais ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que on était là tous les deux avec nos bols d'Orioki sur le rebord de la fenêtre, là, en quelque sorte, à essayer de rapprocher l'exemple le plus près. Il avait déjà eu Lisa à côté de lui, tout le monde autour, et ça m'a rappelé. Et c'était le même geste, en fait, le truc que j'arrivais pas à faire au début, c'était exactement ce même geste, c'est-à-dire comment tu tires la main par en dessous, quoi, tu comprends, enfin, une fois pour faire le nœud à la fin. Enfin, en tout cas, ça rejoint, c'est un peu ce dont il s'agissait, dans le sens où. Enfin voilà, plusieurs fois, il y avait ce moment où tu vois, tu regardes le truc à côté, tu regardes comment l'autre fait, tu regardes ce que l'autre fait, tu vois l'exemple, tu peux lire un livre qui t'explique, etc. Et en attendant, c'était au moment, à un moment donné, t'as capté que c'était à cet endroit qu'il fallait tenir le tissu et que c'était comme ça qu'il fallait tirer. Et au moment où tu l'as fait, c'était un espèce de, comme un koan justement, comme un espèce de mini éveil où t'es là, ah mais bien sûr, évidemment. Voilà. Donc ça m'a évoqué ça en tout cas.
C'est la découverte par soi-même. Hein.
Exactement.
C'est beaucoup plus puissant.
Oui.
C'est aussi, enfin là je sors un peu du bouddhisme, c'est un peu le principe du coaching. Hein.
Ah voilà, exactement. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que on peut très bien conseiller, etc., mais il faut que la personne trouve pour soi-même, c'est ça?
Ben, c'est-à-dire que le coaching, ce n'est pas du conseil. C'est en fait, vous, pour ceux qui se sont frottés un peu au coaching, c'est surtout pas du conseil. C'est amener l'autre à découvrir lui-même sa propre vérité et sa propre idée des choses. Voilà, c'est son parcours, c'est lui qui va découvrir son propre parcours et pas quelqu'un qui va lui conseiller de faire ci ou de faire ça.
Exactement, c'est exactement. C'est équivalent, oui, tout à fait. J'ai utilisé le mot conseil, sachant que, en disant que ce n'était pas ça, mais les gens parfois ils me demandent, mais qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je dis, mais je ne donne pas de conseil. C'est comme ça.
Exactement. Et c'est beaucoup plus puissant que le conseil.
Exactement. Et c'est un bon exemple à cette histoire de. Maintenant, c'est. Ah, oui, bien sûr.
Oui, et ça démontre que l'expérience, elle est toujours telle qu'elle est, unique, et que Voilà, on est des éternels débutants.
Oui. Ouais. Alors, je crois qu'il faut s'arrêter. Hein, non ?
1 minute 30, il reste.
Si rien, si personne n'a quelque chose, on va s'arrêter.
Je voulais juste rajouter que dans tous les différents sanghas de notre groupe, personne n'a jamais triché, sauf une. Personne n'a jamais donné la réponse d'un courant que vous avez déjà passé. Mais c'est énorme quand même, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais personne n'a capté. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas capté à moi. Et je dis à tous les autres, mais à moi, personne, sauf une nana. Mais bon, elle l'a tellement caché que je me suis rendu compte après. Mais,
oui, et ce qui peut, parce que des gens apprécient justement par leur propre expérience, combien c'est précieux son propre expérience. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est il y avait la mère de quelqu'un qui est venue, ses deux fils pratiquaient les zen. Et elle voulait savoir, mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'ils font, mes fils? Et donc, elle est venue à une retraite. Elle est restée 2 semaines, quand même. C'était une retraite d'un mois, et elle est restée 2 semaines. Et à la fin, ou à un moment, elle demandait à son fils ce qu'il faisait. Et il disait, je travaille sur tel ou tel Coran, etc. Elle dit, mais elle le dit tout le temps. Je sais ce que c'est la réponse. C'est moi! Mais il n'a rien compris, son fils. Elle ne l'a rien compris non plus. Donc, on peut très bien entendre les mots, les réponses, lire les livres, mais si on n'a pas cette expérience soi-même, c'est comme un coach qui va dire, fais ceci et cela, mais si c'est pas mon expérience, ça va... On passe notre vie à faire ça, en fait. De croire qu'il faut faire d'autres choses, mon père voulait que je fasse ça, ma mère voulait que je fasse ça, mes profs, la société, mon mari, mes enfants, etc. Et en fait, on passe à côté, parce qu'on n'est pas en contact avec ça. Voilà le chemin du Zen. Aujourd'hui, demain, ce sera autre chose, mais c'est ça. Merci. Bon appétit, parce qu'on va...
Merci. Oui, on va se peu.
Est-ce qu'il faut s'arrêter ça? Non.
Non. Et après, on va se préparer pour le ryoki. Je ne sais pas non plus, on va découvrir. Hop.